Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Parce que derrière chaque succès se cache aussi un lot de mauvaises idées, de détours, de rencontres inespérées et de décisions improvisées, 5 entrepreneurs se confient à Urbania. Histoire d'affaires, 5 épisodes inspirés par les 50 Québécois qui créent l'extraordinaire en 2016, le plus récent numéro du magazine Urbania. Une série créée et produite par Urbania, présentée par Desjardins Entreprises.
T'sais, ma réalité dans le jour, il n'y a rien de glamour à ça. Là. C'est pas glamour de travailler 12, 13, 14 heures dans une journée.
C'est bien beau créer une marque, là, mais les gens sont intelligents. Les gens sont capables de voir à travers toutes tes communications.
C'est la chose que les gens me disent tout le temps, ressources humaines, tu vas voir, c'est compliqué, mais c'est vrai.
Ils se sont lancés dans la fabrication de canots et de kayaks en fondant Abitibi&Co. Pourtant, ils ne faisaient pas de fixation particulière sur les pagaies. Jean-Daniel Petit nous raconte comment son partenaire et lui ont su conjuguer instinct et bonne opportunité.
En fait, l'entreprise est née de Guillaume Leblanc. Qui est mon partner dans le projet. Guillaume et moi, on était voisins quand on était TQ. Fait qu'on était en habitant en Abitibi-Témiscamingue, à Évin, précisément. Donc, une rue qui nous séparait. Donc, je passais par les deux maisons en arrière. On allait jouer au hockey ensemble, skateboard et tout, jeune. Puis, on a perdu contact à la fin du secondaire. Donc, Guillaume est allé étudier en génie mécanique. Il est ingénieur mécanique. Et moi, j'ai décidé de déménager à Montréal pour étudier en médias. Donc, c'était un peu le début de comment on s'est connus. Guillaume, après avoir travaillé dans les sables bitumineux puis les mines et tout ça, faisait de la bonne argent, un bon job et tout, mais c'était hyper loin de ses valeurs. Et il a acheté un kayak à l'été 2014. Et ce kayak-là était bâti à une heure de chez eux. Finalement, il dit, je veux investir dans une entreprise. Il ne savait pas laquelle. Il y a eu plein d'opportunités, mais c'était pas la bonne. Donc, il a appelé la directrice générale à l'époque. Il a dit, j'aimerais ça vous rencontrer, visiter la manufacture, puis voir peut-être si je peux investir. Puis, quand il est arrivé là-bas, le matin même, lui, il est arrivé à 2h de l'après-midi. Et le matin, le syndic de faillite avait fermé l'entreprise. Donc, moment hyper émotif, super difficile, parce que tu avais le fondateur qui était là, 80 quelques années, toute la famille, tu sais, c'est un business qui était familial, ça existait depuis 53 ans, là, tu sais, beaucoup d'héritage, donc c'était dur, c'était lourd au niveau sentimental. Par contre, après ça, Guillaume a pu acheter les moules, acheter tout simplement les morceaux importants de l'entreprise. Mais lui, il n'était pas préparé à ça. Lui, il s'en allait investir dans une entreprise, pas acheter une entreprise. Donc, il était obligé de se tourner de bord, d'aller chercher un prêt personnel chez Desjardins, de dire, écoute, j'ai pas de plan d'affaires, j'ai pas rien, là, mais je vais acheter des moules de canot-kayak. Puis, est-ce que vous embarquez? Desjardins a embarqué, il a fait un prêt pour les moules. Il a récupéré ça. Donc, l'avantage, c'est que là, tu n'achètes pas une entreprise, tu achètes des morceaux, donc beaucoup moins dispendieux. Et là, Guillaume m'a appelé, il dit, Jean-Daniel, ça faisait 15 ans qu'on ne s'est pas parlé. Il dit, Jean-Daniel, je t'ai suivi sur LinkedIn, je sais que tu es dans les communications, ça a l'air à bien rouler tes trucs, j'ai besoin d'un coup de main. Je viens d'acheter des moules, je ne sais pas quoi faire avec ça, mais je sais que l'image de marque va être probablement la pierre angulaire du projet. Donc, est-ce que tu peux me référer dans les meilleures agences au Québec? J'ai besoin d'avoir un coup de main. Puis c'est sûr que ça va être mon focus principal.
Personnellement, quand le vieux ami disparu nous ajoute sur LinkedIn, ça nous donne rarement le goût d'abandonner notre carrière pour les retrouver. Pourtant, c'est ce que Jean-Daniel a décidé de faire.
Puis là, moi, à cette époque-là, j'étais encore chez Sidley. Donc, j'étais en agence. Puis je dis, ben, ça dépend c'est quoi ton budget. Parce que quand tu fais affaire avec des grosses agences, tu vas avoir un super bon service. Tu vas avoir des créatifs hallucinants. Par contre, si tu n'as pas la bonne quantité d'argent pour investir dans ça, ben, tu vas peut-être avoir un travail qui est à moitié fait. Donc là, je lui ai dirigé vers différentes options. J'ai dit, tu peux avoir une plus petite agence ou sinon tu peux avoir des consultants, tout ça, ou de bâtir un département à l'interne. Encore là, tu sais, de bâtir un département à l'interne, ça coûte hyper cher et tu n'as pas encore une marque pour pouvoir attirer les bons talents. Donc là, on a commencé tout simplement à collaborer. J'ai dit, écoute, moi, je vais t'aider, je vais bâtir avec toi ton plan d'affaires. On va bâtir ensemble le plan marketing, le plan de commercialisation. Puis si tu es capable d'aller chercher ton financement, on va trouver une façon ensemble pour me rémunérer. Puis au final, j'ai dit, c'est un peu le gift economy. Tu sais, paye-moi ce que tu penses que ça va valoir après. Puis, mais pour l'instant, tu sais, je vais t'aider. Et c'est drôle parce que là, à ce moment-là, je l'ai challengé sur pas mal toutes les idées initiales qu'il y avait sur le côté communication marketing. Et il était hyper ouvert. Finalement, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision, les mêmes valeurs. Alors, après ça, on a pitché les idées à des investisseurs. Puis, on a eu le financement. Puis là, ben, le projet est né comme ça. Puis là, il dit, ben, j'en ai un finalement. J'aimerais peut-être ça que tu sois partenaire avec moi. On part ça ensemble. J'ai l'impression que j'attendais un projet depuis très, très, très longtemps pour pouvoir créer une marque. Je pense que c'est ce qui me fait triper. Je pense que le pouvoir d'une marque, l'avantage, la liberté que ça donne au niveau de la création, l'impact que tu peux avoir sur des gens. Mais si tu n'as pas un produit qui est bon à la base puis qui est proche de toi, tu vas toujours pédaler un peu là, à contresens. Puis là, c'était un peu l'alignement de tout. J'ai l'impression que j'avais accumulé quand même assez d'expérience pour faire le lancement, même si on en accumule encore énormément, mais avec un produit dans lequel on se voyait puis on était capable de se projeter. Là.
L'histoire de Jean-Daniel et de Guillaume est quelque chose de quasi romantique. Ils se sont perdus, ils se sont trouvés, ils ont touché le succès. Est-ce que c'est un coup de destin, le karma, le hasard? Est-ce que ce sont des âmes sœurs entrepreneuriales?
Je pense qu'on est les deux des entrepreneurs, pas nés, mais te sens en dedans de toi. Je pense que tu le sens d'un certain jeune âge, tu veux entreprendre des choses, que ce soit des projets, des voyages, des trucs comme ça. Fait que les deux, on a cette fibre-là. Par contre, jamais j'aurais été capable de partir un projet de cette envergure-là sans avoir toutes les aptitudes que Guillaume a. Guillaume, son côté ingénieur est super utile, son côté très analytique, vraiment, c'est un pilier émotionnel aussi. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de haut, de bas, est toujours stable, ce qui fait que ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense que sans Guillaume, le projet ne serait pas OK maintenant. Puis, à l'opposé, Guillaume pourrait produire les meilleures embarcations, le plus beau produit, avoir la rigidité, la structure nécessaire, s'il n'est pas capable de transmettre son émotion, au final, se retrouve avec un produit que les gens ne connaissent pas. Donc, c'était un peu le match parfait, mais indépendamment, on aurait probablement pu partir d'autres entreprises, mais je pense pas que ça aurait été aussi fructueux.
Au-delà des embarcations, l'Abitibi est au cœur de l'entreprise, de la marque. Pour Jean-Daniel, il fallait que ce soit clairement affirmé.
Plusieurs gens nous ont dit de pas choisir ce nom-là, Abitibenco. Les gens disaient, ah, prenez pas ça, ça a un côté péjoratif un peu au Québec, les grosses mouches, les maringouins, c'est une région éloignée. Puis pour nous, c'est tout le contraire. C'est la région la plus incroyable pour le plein air. Surtout, l'Abitibi-Témiscamingue, les gens ne le savent pas, mais c'est 22 000 lacs et rivières là-bas seulement. C'est environ là, un lac par 7 habitants. Donc, la beauté de la nature, les possibilités de voyage, de découverte et le côté sauvage. Puis ça, là, c'est hyper important pour nous. Donc, c'est comme un mot qui encapsule tout ça. Puis la dernière truc, c'est quand même un nom avec des origines algonquines. Donc ça aussi, il y a cet héritage-là qui est important dans le canot, mais aussi dans notre région.
Ça fait même pas un an que la marque Abitibi & Co. a été lancée, puis elle jouit déjà d'une solide renommée. Niveau création de marque, Jean-Daniel a visé juste un exploit qu'il pourrait répéter avec d'autres produits, avec certaines conditions.
Je pense que la beauté d'une marque, c'est qu'elle peut te donner, elle peut faire naître un produit, le faire croître et lui injecter pas mal tout ce que tu veux lui injecter. Mais si le produit est pas bon à la base, ou s'il est pas proche de toi, ou s'il répond pas à un besoin précis, tu vas travailler deux fois plus fort, puis il va falloir, à un moment donné, tu fasses des trucs peut-être un peu louches. Fait que je te dirais que n'importe quel produit, oui. Par contre, probablement que j'aurais pas lâché mon boulot pour n'importe quel produit. Puis celui-là, il était tout simplement proche de mes valeurs, proche de mes intérêts personnels. Justement, ça répondait un peu à toute la base. Puis il n'y a rien de plus agréable pour quelqu'un en communication de partir avec un produit qui est noble, qui est bon, que la qualité est là. Donc, j'ai même pas besoin de me soucier. Est-ce qu'on va avoir un retour sur le service à la clientèle? Est-ce que le produit va péter? Est-ce que finalement, on est en train de créer une bulle, puis il y a rien? Pas, exact. T'sais, est-ce que tu as besoin de substance? C'est bien beau créer une marque, là, mais les gens sont intelligents. Les gens sont capables de voir à travers toutes tes communications. Donc, tu peux pas penser créer quelque chose sans avoir le bon produit à la base.
On a une image assez définie de l'amateur de canot-kayak du nord du Québec. Il porte des sandales sportives, il mange déshydraté. Pourtant, c'est loin d'être le stéréotype auquel parlent les gars d'Abitibi&Co.
C'est drôle parce que y a les clients à devenir, les gens à devenir, puis les clients en ce moment. Les clients en ce moment, c'est beaucoup de bébés boomers. Les gens qui pagaient le canot et le kayak, c'est quelque chose qui était très fort dans les années 60-70. Et ça l'a tout simplement vieilli. Donc, ça ne s'est pas renouvelé. Donc, c'est quelque chose qui ne s'est pas transmis nécessairement. Par contre, ça fait partie de l'héritage canadien. C'est juste... Ça fait partie de nous, la façon que ça a été, que le Canada a été peuplé, comment ça, les endroits ont été découverts un peu partout, en Abitibi principalement. Donc, ce qui fait que la clientèle en ce moment est vieillissante. Mais la deuxième clientèle, c'est la nouvelle génération. Les gens, je pourrais dire, là, entre le 20 et 35 ans, qui ont besoin d'une connexion avec la nature, qui ont vécu cette espèce de shift-là, de dire, bon, mais on est de plus en plus connectés, plus proche de la technologie, on dans les grands centres, puis là, on a besoin de retourner en nature pour reconnecter nous-mêmes et qui ont besoin aussi de reconnecter avec une marque qui sont proches de leurs valeurs. Donc ça, pour moi, c'est une clientèle qui est en devenir parce que les gens vont nous suivre, les gens aiment, en fait, notre discours, aiment nos valeurs, où on se positionne, mais ces gens-là n'achèteront pas un bateau avant plusieurs années, voire peut-être jamais. Donc, c'est une clientèle pour nous qui est super intéressante parce que c'est une clientèle qui est vocale, une clientèle qui est active, qui est communautaire. Mais mon but, c'est pas de dire nécessairement tous ces gens-là doivent acheter un canot, un kayak. Je pense que je veux que ces gens-là suivent le projet Abitibi&Co. Puis, dans le futur, on va pouvoir leur offrir une autre façon d'embarquer dans le projet que d'acheter un canot.
Après des années passées en agence, Jean-Daniel a compris une chose. Pour parler à sa clientèle, ça vaut mieux de raconter une histoire que d'expliquer qu'une embarcation, ça mesure 17 pieds.
Je pense que c'est pas nécessairement de brander d'une façon sexy, c'est juste de l'ancrer dans quelque chose qui est très terre-à-terre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de présenter le canot-kayak comme étant quelque chose d'hyper technique. On s'en va pas sur la Lune, là. C'est pas une embarcation spatiale, c'est pas une Ferrari, c'est des embarcations, c'est fabriqué l'art de fabriquer des embarcations est très précise. Les matériaux sont importants, la façon qu'on le crée. Par contre, un canot reste un canot. Ça flotte, ça avance. Puis, même chose avec un kayak. Donc, nous, c'est des kayaks de mer. Mais après ça, la raison pourquoi tu en achètes un, c'est le plaisir que ça va t'apporter. La raison pourquoi tu vas aller en canot. Et c'est ça qui est important pour nous. Donc, je veux pas parler du côté technique. On l'a, puis les gens vont pouvoir aller chercher cette information-là. Par contre, mon but, c'est d'inspirer le monde à aller dans le bois. Puis ça passe par des images, ça passe par des vidéos, ça passe par une énergie, une émotion. Puis l'émotion, c'est pas de dire, il y a 17 pieds de long, puis il est 30 pouces, puis il pèse 42 livres, tu sais. Nous, on a deux axes pour l'entreprise. La première, c'est notre but d'entreprise, c'est d'inspirer les gens à aller explorer. Donc ça, c'est le but premier. Puis la deuxième, c'est de s'assurer qu'on a un impact positif sur notre communauté, nos employés et l'environnement. Donc le but de l'entreprise, c'est d'utiliser le capitalisme, en fait, le côté monétaire, commercial de l'entreprise comme un levier de changement. Et ça, c'est super important. Et ça passe par... la façon qu'on embauche les gens, c'est quoi nos initiatives à l'intérieur même de l'entreprise, quelles sont nos initiatives hors entreprise. Et un va pas sans l'autre. Pour nous, là, c'est le but, c'est de bâtir une entreprise qui est durable. Puis pour faire ça, on a besoin d'avoir des valeurs qui sont fortes et rester proche de ces valeurs-là. Donc des valeurs environnementales, des valeurs familiales au niveau des employés, des valeurs aussi au niveau du côté humain et humilité. Je pense que la nature apporte ça. Quand tu te retrouves dans un lac qui est immense ou entouré de montagnes, tu te rends compte que l'humain, ben, finalement, c'est une petite, petite bébite parmi un gros truc. Versus, des fois, quand tu es en ville, on contrôle notre environnement. Fait qu'on perd un peu, des fois, cette humilité-là face à la nature. Je pense que ça, c'est important de la retrouver. Donc, c'est un peu tout ça ensemble qui fait que le projet, pour nous, est important. Il faut garder cet ancrage-là.
Les belles valeurs ne sont pas juste mises de l'avant, elles sont intrinsèques au fonctionnement d'Abitibi&Co.
Les gens parlent beaucoup d'économie circulaire. Ils disent, bon, ben, créer une économie ou une entreprise qui utilise la même quantité d'énergie qu'elle va retirer de l'environnement. Tu sais, en fait, c'est d'avoir quasiment comme un carboneur. Donc, si tu utilises X, finalement, tu auras donné X, donc ton entreprise n'a aucun impact sur... Ça, c'est un peu le principe de l'économie circulaire. Nous, on le voit plutôt comme la façon de faire de la business. Si ton entreprise détruit l'environnement, puis est pas bonne, puis est pas durable, c'est quoi la raison de faire une entreprise? Donc, en ce moment, les gens parlent comme d'un mouvement, puis d'un nouveau trend de business. Mais nous, on pense que dans 10 ans, ça va être juste la seule façon. Fait qu'il n'y aura même plus de nom. Ça va devenir la chose. Fait que pour nous, ça dicte toutes nos décisions. Donc, la première chose, c'est où on est installé. Au lieu, la tendance a été beaucoup d'amener toute la production de canoë-kayak en Asie. Donc, on change les matériaux, on construit en plastique, on construit en Asie. Donc, ça amène des produits qui sont moins dispendieux. Par contre, le plastique, c'est pas un produit qui est rapide, c'est pas un produit qui est performant. Mais surtout, c'est pas un produit qui se répare. Puis nous, c'est important. Nos embarcations ont une durée de vie à peu près de 40 ans et plus. Et ils peuvent continuellement se réparer. Donc, la fibre, c'est ça qui est intéressant. La deuxième chose, notre approvisionnement. On a ramené ça au Canada aussi. Donc, réduire notre impact au niveau de notre approvisionnement. Les rénovations d'entreprise ont été faites pour justement avoir un côté plus éco-énergétique. Le chauffage maintenant est au granule, qui fait qu'on est beaucoup plus performant. On utilise beaucoup moins d'énergie. Puis, on a sauvé énormément d'argent. Donc, c'est payant aussi, tu sais, d'avoir... ce côté-là. Puis dernièrement, ben, au niveau des employés aussi, on a une politique qui est quai ouvert. Donc, tous les employés ont accès au quai à Guillaume, sur le bord de l'eau. Donc, ils peuvent aller en tout temps aller prendre les canoës, les kayaks avec leur famille, leurs amis. Ils n'ont pas besoin d'appeler, ils n'ont pas besoin de se préparer. Ils vont quand ils veulent. Donc, c'est accès à tout le monde. L'entreprise, toutes les meubles ont été faits en palettes recyclées. Donc, nous, on reçoit notre matériel sur des palettes. Donc, on a dit, bon, on va réutiliser ça. Puis même nos stands d'exposition. Donc, quand on fait des salons, salons du bateau, salons expert chasse-pêche, ces trucs-là, c'est tout fait en palettes. Donc, alors là, on sauve ses coûts, mais on sauve sur les matériaux. Puis, dernier truc qui est super important, pour chaque embarcation vendue, on s'engage à retirer l'équivalent d'un sac de vidange des lacs, rivières et des forêts. Donc, puis cette année, on décide d'aller beaucoup plus loin. Donc, on ne se limite pas à un sac par embarcation vendue, mais là, on va essayer d'aller, bon, est-ce qu'on est capable d'aller retirer 25 à 30 tonnes de déchets des dépotoirs sauvages? Puis, c'est pas un coup de marketing, c'est pas comment c'est cool, c'est... Si on prend pas soin de nos lacs, nos rivières, nous, on n'en aura pas. T'sais, on ne pourra pas continuer à faire du canot puis du kayak. Puis, à l'inverse, si on devient des gens qui essaient d'être de paterniser les gens, puis d'être des extrémistes, puis d'être des gens qui disent à tout le monde le haut et fort, le pro-environnement, puis arrêter de faire ci, faire ça, c'est pas inspirant. Nous, là, si les gens vont dans le bois, puis ils sont sur l'eau, honnêtement, Mère Nature va faire la job. C'est fou comment que l'émotion interne d'être en plein milieu d'un lac, ce que ça peut créer. Après ça, les gens vont dire, faut protéger ça, faut faire attention. Puis c'est là que le travail va se faire. Fait que nous, notre job n'est pas d'être des activistes. C'est d'être un peu des instigateurs du mouvement au niveau entrepreneurial, de dire, mais nous, nos pratiques, on veut que ça soit durable, ça soit au cœur de l'entreprise et c'est pas séparé. C'est un va avec l'autre et il n'y a pas de demi-mesure.
Avec le dernier numéro du magazine, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs et on vous avoue que Jean-Daniel est le seul à nous avoir dit qu'il ne souhaitait pas vendre plus de produits.
C'est drôle parce que notre but n'est pas de vendre plus de canoës puis de kayaks. À un certain moment donné, on veut pas inonder le marché. Il y a un certain nombre d'embarcations que les gens ont besoin. Nous, on veut leur offrir l'embarcation qui va durer le plus longtemps, puis qui va être la meilleure qualité. Après ça, le but, c'est de continuer à avoir de l'influence. Donc, c'est sûr que si on ne vend pas des millions d'unités, c'est plus dur de parler à tous ces gens-là. Le produit devient un porte-parole. Donc, comment qu'on peut avoir des porte-paroles qui sont différents sans avoir à produire plus? Donc là, on s'est dit, bien, on va créer un média. Et le média n'est pas pour vendre du canot-kayak parce que le nom du magazine n'est pas lié à Abitibi-Inco directement. Abitibi-Inco est l'instigateur de ce projet-là. Et le but, c'est de partir avec un nouveau discours dans le plein air. Donc, prendre tout ce qui se passe au nouveau plein air, at large, là, puis ramener ça autour d'une discussion qui est beaucoup plus philosophique pour réfléchir où on s'en va puis comment qu'on amène ça. Puis ramener, en fait, toute la communauté d'opinion et de valeurs autour de ce média-là. Puis ça va amener à avoir plus d'influence, à avoir une plus grosse communauté, à avoir un discours constant. Donc, c'est pour ça qu'on parle de médias. C'est pour ramener cette communauté-là d'intérêt autour là, d'une même plateforme pour échanger.
Il y a 2 ans, les 2 cofondateurs n'avaient jamais été en affaires. Ils subissent aujourd'hui une croissance fulgurante et ça, mais ça vient pas sans défi.
C'est extrêmement dur. On a passé de 5 à 22 employés à l'intérieur d'environ là, 10 mois. Hyper dur. Tu sais, le growing pain là, qu'ils appellent, là, c'est vrai. C'est difficile parce que t'as pas le temps de former ton monde comme tu voudrais le faire. Tu veux passer plus de temps avec eux. Chaque individu est hyper important. Tu veux t'assurer que chacun de tes employés a de la place pour grandir, qu'ils ont de la place pour s'épanouir aussi juste humainement à travers le groupe, que le groupe soit homogène, que la culture d'entreprise soit là. Mettre un objectif aussi de production. Donc, on doit être capable de produire dans les temps et tout ça. Donc, se jongler là-dedans, là, c'est super difficile parce que là, tu te bats avec une valeur qui est importante. Tu te dis, non, moi, la valeur familiale, c'est plus important. Donc, c'est correct que mon employé parte à 4 heures parce qu'il va chercher ses enfants. Mais en même temps, s'il part à 4 heures, ben là, j'ai tel bateau qui n'est pas terminé, qui doit partir le lendemain. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, jongler là-dedans, c'est dur parce qu'il n'y a pas de manuel d'instruction. Puis, on veut pas appliquer un modèle manufacturier qui est trop rigide. Donc, c'est pas des robots. Donc, on doit concilier performance et réalité de manufacture. C'est une chaîne de production. Ça reste que ça, c'est la réalité. Mais en même temps, comment que ces gens-là peuvent avoir du plaisir, avoir du fun? Et je pense que ça, là, ça nous garde réveillés à tous les jours. Là. C'est super difficile. Je pense que c'est la chose que les gens nous disent tout le temps, ressources humaines, tu vas voir, c'est compliqué, mais c'est vrai. Parce que le côté humain, c'est dur. Puis il faut que tu prennes des décisions d'affaires aussi à travers le côté humain, qui est des fois difficile, mais qui est nécessaire pour l'entreprise. Donc ça, c'est un apprentissage constant. On n'a pas l'expérience, pour donner des conseils aux gens. On l'apprend. Puis on pose beaucoup de questions à des gens autour. On s'entoure de mentors pour justement apprendre constamment.
Malgré le hype, les gars sont toujours dans les ligues mineures. C'est eux qui le disent.
Les gens font comme « Ah, tu sais, c'est glamour, c'est cool, on entend parler de vous autres et tout. » Tu sais, moi, je suis comme les joueurs de hockey dans le junior, là, je fais de l'autobus, là. T'sais, moi, je prends l'autobus, sincèrement, je prends l'autobus de Montréal pour aller à Rouyn-Noranda. C'est une ride de 10 heures en bus. Là. C'est pas glamour. Je prends pas l'avion, puis j'ai pas ma voiture. Puis même, des fois, je fais du covoiturage. C'est vraiment... on est dans les ligues mineures en ce moment. Puis venez me voir mon bureau de travail, là, puis t'sais, ma réalité dans le jour, il y a rien de glamour à ça. Là. C'est pas glamour de travailler 12, 13, 14 heures dans une journée ou de d'être stressé, de te réveiller la nuit à avoir des trucs. C'est pas glamour, c'est trippant, c'est le fun, puis y a aucune complainte, puis y a aucun regret, là. Vraiment, là, c'est jamais, jamais. Par contre, c'est faux de dire que c'est glamour, puis il faut faire attention parce que être entrepreneur, c'est un apprentissage constant, puis c'est la résolution de problèmes à la minute. L'analogie que je donne, là, imagine que tu as une méga grosse corde d'escalade là, qui mesure à peu près 500 pieds. Là. Puis là, il y a du monde qui a mis à peu près 2000 nœuds là-dedans. C'est ça être entrepreneur. Là. Tous les jours, il faut que tu défasses un nœud pour que finalement, après ça, ta corde, elle devienne fluide puis utilisable. Donc, c'est juste ça qu'on fait. Tu sais, tu débouches des portes, tu débarres des portes, tu défais un nœud, tu résous un problème. Quand tu penses que c'est un bon coup, là, tes deux bras dans les airs, t'es en train, yes, on a fait un bon coup, t'as reçu une brique dans le ventre, t'es comme, ah, là, on a un autre truc qui ramène à la réalité. C'est ça, tu sais. Peut-être que dans 10 ans, là, on va faire comme, hey, finalement, les années de démarrage sont parties. Mais le début, c'est ça. C'est pas glamour. C'est pénible, mais dans le bon sens du terme.
Ça fait pas longtemps que Jean-Daniel a décidé d'embrasser sa fibre entrepreneuriale, mais il est déjà en mesure de cerner quelques réflexes nécessaires pour réussir en affaires. Prenez des notes.
Je me sentirais imposteur de dire on est des bons entrepreneurs puis on va donner des conseils aux gens. On est tellement au début du projet puis on l'apprend. Hein. Par contre, tout le monde a une expérience variée qu'ils peuvent t'apporter. Donc, la meilleure chose, c'est applique pas à la lettre ce que quelqu'un dit, parce que ça s'applique probablement pas à ta réalité d'entreprise. Par contre, analyse ce que la personne te dit, puis même si c'est dur, c'est pas évident, prends ça, puis après ça, applique-le à ta sauce, mais sois une éponge. Surtout, là, t'sais, nous, à notre stade, là, on a tellement à apprendre partout, puis on a une vision, on la garde, puis on est vraiment, vraiment têtu là-dessus, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Comment on va se rendre là? Ça, c'est une autre histoire. Puis si on peut avoir une ride une fois de temps en temps, là, on va apprendre.
On va se le dire, en à peine 2 ans, Abitibi&Co s'est déjà forgé une solide histoire. Pour rester sur cette lancée, Jean-Daniel Petit et son partenaire Guillaume Leblanc ont un plan bien détaillé. Voici ce que leur réserve 2016.
Il y a 3 grands axes. Le premier, c'est stabiliser la manufacture. Donc, on est à 22 employés, on reste à 22 employés, puis là, c'est formation, consolider cette culture d'entreprise-là, puis s'assurer que on a une optimisation. Donc ça, là, c'est stabiliser la production. La deuxième est vraiment de développer cet aspect média-là. Donc, on lance le magazine en septembre. On lance aussi des expériences. Donc, on lance des expériences à Abitibi&Co dès cet été. Donc, les gens vont pouvoir vivre le lifestyle, vivre le mood et le côté environnemental. Donc, cet été, on planifie 3 grosses opérations de nettoyage pour aller récupérer 25 tonnes de déchets là, dans la forêt. Donc, ce sont nos 3 gros trucs qui arrivent. Puis, le plus long terme, c'est le côté média d'Abitibi&Co de devenir une marque avec une influence dans le milieu du plein air, mais avec une réflexion qui est plus axée sur le niveau philosophique que juste sur le côté pratico-pratique des produits.
Urbania et Desjardins vous proposent 4 autres histoires d'affaires. Entendez-les au urbania.ca/histoire-d'affaires.
Cet épisode a été enregistré chez Studio Plasma.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.